Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père, Saint Jérôme, pardon, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant que de commencer ce cours, petite note sur les retraites 2022, les exercices de Saint-Ignace, prêchés selon les méthodes du Père Vallée, par votre serviteur. Donc je suis plein pour la retraite de Semaine Sainte, du 11 au 17 avril. Je suis plein également pour la retraite du mois de juin, du 6 au 11 juin. J'ai encore quelques places pour les retraites d'avril et de mai, la deuxième retraite d'avril du 25 au 30 avril et du 16 mai au 21 mai. J'ai encore quelques places, n'oubliez pas que je suis plein à partir de 6 personnes, parce que je n'ai que 6 chambres disponibles dans le gîte que je loue ici à 15 minutes de l'endroit où j'habite, frontière entre le Tarn et l'Aveyron, donc près d'Albi. Par contre, j'ai encore des places pour les retraites de septembre et d'octobre. Donc n'attendez pas, pour ceux qui veulent suivre ces retraites, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, pour que je puisse m'organiser. Ce serait bête quand même que je sois obligé de refuser du monde. Voilà. Nous allons continuer le chapitre 5 de Saint Jean. Donc, nous en sommes dans les explications des pères de l'Église à la page 58 sur le polycopier. En haut de la page 58, alors je vous rappelle qu'il y a quelques parfois différences de page à cause des changements de Windows à Linux. Donc nous sommes en train d'expliquer les versets 1 à 13 du chapitre 5 de Saint Jean. Je vous rappelle ce que nous sommes en train d'expliquer. Il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem la piscine des brebis qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient étendus un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car l'ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et en agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier dans la piscine après que cette que l'eau avait été agitée, était guérie, quelle que fût sa maladie. Or, il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps déjà, lui dit, « Voulez-vous être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau a été agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Levez-vous, prenez votre grabat et marchez. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son grabat et marcha. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne vous est pas permis d'emporter votre grabat. » Il leur répondit, « Celui-là même qui m'a guéri m'a dit, « Prenez votre grabat et marchez. » Ils lui demandèrent, « Quel est cet homme qui vous a dit, « Prenez votre grabat et marchez ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était retiré de la foule rassemblée en ce lieu. Donc nous avons déjà commencé à expliquer ces passages à partir des pères de l'Église. Donc je voudrais terminer en haut de la page 58. Donc je rappelle ce que disent les pères sur ce sujet. Donc le Christ, après son baptême par Saint Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, prêcha pendant 3 ans et demi. On le sait surtout par Saint Jean, donc l'apôtre Saint Jean, qui mentionne dans son évangile 3 fêtes de la Pâque, en plus de celles dont il parle ici. Donc en Jean 2, 13, Jean 6, 4, Jean 19, 14, juste avant sa mort. Donc il est parfois difficile de reconstituer exactement l'historique de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a des différences entre les évangiles synoptiques, Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc, et l'évangile de Saint Jean. Saint Jean ne répète pas, j'ai déjà expliqué ça auparavant, ne répète pas systématiquement ce qui a déjà été expliqué plusieurs fois dans les synoptiques, et donc explique d'autres choses. Pas oublier non plus que Saint Jean précise bien que si il fallait écrire tout ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, tous les miracles qu'il avait fait, le monde ne pourrait pas contenir les livres nécessaires pour écrire toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses qui ne sont donc pas dans l'Évangile. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que les pères de l'Église expliquent bien que cette piscine de Bethsaïda, avec ce miracle de l'ange qui descendait pour en agiter l'eau, et Dieu qui guérissait le premier qui descendait dans l'eau après que l'eau ait été agitée, était guéri. Ceci est le symbole du baptême. Donc on a déjà expliqué cela d'après les pères de l'Église, je n'y reviens pas. Vous avez ça surtout dans la page 57 du polycopier. Alors, il faut un petit peu aller enfoncer un peu le clou avec ce que disent les pères sur le sujet. Alors, tropologiquement, c'est-à-dire au sens moral maintenant. C'est-à-dire au sens moral, c'est le sens ou tropologique ou moral, ce sont deux synonymes. C'est-à-dire un passage de l'Évangile explique ce qui doit se passer dans notre âme aujourd'hui, dans mon âme. Le pécheur, disent les pères, dans son chemin de conversion et de guérison par Dieu, sera troublé et agité dans sa conscience par diverses émotions de crainte, de honte et d'espérance. Par ces émotions, Dieu amène l'homme à la repentance et à la contrition pour finalement être guéri, comme l'enseigne le Concile de Trente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain temps qui va s'établir entre le mouvement de l'eau et la guérison de l'individu. Ici, cet homme était paralytique, donc ne pouvait pas se jeter lui-même dans l'eau, il fallait que quelqu'un le fasse pour lui. Et le temps que quelqu'un le pousse dans l'eau, un autre avait été guéri auparavant. Eh bien, cela représente le temps nécessaire pour aboutir à la conversion. On ne se convertit pas en 5 minutes. Bon, certes, il y a eu des cas extraordinaires, notamment la conversion de Saint Paul. Il est descendu de son cheval par le Saint-Esprit-Saint, il est paralysé, il est rendu aveugle. C'est le cas aussi de Saint Matthieu. Ce sont des gens qui sont convertis d'un seul coup, Sainte Marie-Madeleine également. Et c'est relativement rare. Normalement, pour nous, le travail de conversion prend un certain temps. Au début, c'est souvent une contrition plus ou moins servile de nos péchés, puis une contrition imparfaite, et enfin une contrition parfaite. Bon, les choses peuvent être différentes pour chaque individu, mais ce trouble de l'eau, cette eau qui est troublée, qui est agitée, représente, d'après les pères, donc les troubles qui doivent, le bon trouble qui doit être opéré dans l'âme, c'est-à-dire l'émotion, l'agitation, le trouble et l'agitation, deux synonymes ici, cette agitation qui correspond aux différentes émotions que le Saint-Esprit va susciter dans l'âme de la personne qui est en train de se convertir. D'abord la crainte, donc la contrition imparfaite, le regret de ses péchés simplement par peur de l'enfer, puis de honte, c'est un peu la même chose, et enfin l'espérance, alors là on passe en contrition parfaite, et le regret de ses péchés par amour du bon Dieu. Et ainsi, par ces émotions, Dieu amène l'homme à la repentance et à la contrition, c'est-à-dire qu'il va nous faire monter. Passer d'une contrition imparfaite à une contrition parfaite. La contrition parfaite, je vous le rappelle, d'après l'enseignement de l'Église, peut effacer tous les péchés mortels. Et même une contrition parfaite peut non seulement effacer tous les péchés mortels, mais également effacer les peines temporelles dues aux péchés déjà pardonnés, c'est-à-dire les peines du purgatoire. Ainsi, un homme qui meurt dans un acte de contrition parfaite, par exemple un martyr, va directement au ciel. C'est 2 fois. Un bébé qui est baptisé, qui meurt juste après le baptême, c'est un peu une exception parce qu'il n'a pas de peine de purgatoire à payer, puisqu'il n'est pas coupable d'aucun péché personnel, d'aucun péché actuel. Et donc un bébé qui meurt juste après le baptême va droit au ciel. Alors attention aux bêtises qu'on entend régulièrement, parfois même de vraiment un peu malheureux, de traditionnalistes qui prétendent que on peut avoir un baptême de désir. Une maman peut avoir un baptême de désir pour son bébé. Et que donc, si elle perd son bébé par une fausse couche, à cause du baptême de désir de la maman, pour son enfant, l'enfant est baptisé, va au ciel. C'est totalement faux, on ne peut pas accepter ça. Un baptême de désir, par définition, ne peut être illicité que par une volonté personnelle pour soi-même. On peut avoir un baptême de désir pour soi. Personne qui se prépare au baptême, un adulte qui se prépare au baptême, qui a un désir du baptême, qui attend avec impatience de pouvoir être baptisé, d'avoir terminé son catéchuménat, qui attend pour être baptisé, peut avoir un désir de baptême. C'est ce qu'on appelle un baptême de désir, ça c'est vrai. Par contre, on ne peut pas avoir un baptême de désir pour quelqu'un d'autre, c'est pas possible. On peut prier pour que quelqu'un d'autre puisse recevoir la grâce du baptême, ça c'est autre chose. Une maman qui attend son enfant, qui est encore en son sein, doit prier et peut prier pour que son fils voie la lumière du baptême. Il y a même des prières spéciales, notamment ce qu'on appelle les prières qui sont dans le rituel pour les mamans enceintes. Moi, je le fais systématiquement. En général, les mamans le font par elles-mêmes. Dès qu'une maman sait qu'elle est enceinte, en général, elle va voir le prêtre et demande au prêtre de lui faire cette bénédiction spéciale. Strictement parlant, dans le rituel, c'est une bénédiction qui est plus appropriée pour la bénédiction juste avant l'accouchement. Mais en fait, on peut la faire, on peut bénir, donner une bénédiction spéciale à la maman qui attend son enfant même au début de la grossesse, quitte à la renouveler d'ailleurs juste avant l'accouchement. On peut le faire aussi. C'est une bénédiction très belle et qui sont très anciennes. Ces bénédictions sont très anciennes et datent en fait de l'Ancien Testament très souvent. Ou tout à fait le début de l'histoire de l'Église. De même, une maman qui vient de donner vie extérieurement, donc à la naissance de l'enfant, doit revenir voir le prêtre pour avoir ce qu'on appelle la bénédiction des relevailles. Les relevailles, c'est-à-dire une bénédiction spéciale, retour des couches, après la naissance de l'enfant, la maman peut obtenir une bénédiction spéciale, c'est un sacramental. Personnellement, je le fais presque systématiquement. Lorsque je baptise un bébé, je baptise un bébé, après le baptême, je fais les relevailles pour la maman, quand elle est là. Et on ne peut pas, bien entendu, accepter ces idées complètement loufoques qu'une maman peut obtenir un baptême de désir pour son enfant. L'enfant, par définition, ne peut pas illiciter un acte de volonté, puisqu'il est encore tout petit dans le sein maternel. Il n'a pas encore, il a l'intelligence, mais il n'a pas l'usage de son intelligence. On m'a posé aussi sur ce sujet-là une question assez intéressante, d'ailleurs, je ne l'avais jamais eue. Quelqu'un m'a posé la question intelligente de savoir si l'ange gardien était nommé par Dieu, était donné par Dieu au moment du baptême, au moment de la naissance. Je pense que la réponse est ni l'un ni l'autre. L'ange gardien est donné par Dieu, non pas au moment du baptême, parce qu'à ce moment-là, seuls les catholiques baptisés aurait un ange gardien. Or, il est deux fois que tous les hommes ont un ange gardien, y compris les païens. En plus de ça, il y a vie dès qu'il y a conception dans le sein maternel, dès l'union des deux gamètes, le spermatozoïde qui s'unit de l'homme qui s'unit à l'ovule de la femme, dès qu'il y a vie humaine, il y a un ange gardien qui est à ce moment-là nommé par Dieu, donné par Dieu, pour protéger cet enfant déjà dans le sein maternel. Bon, en plus de ça, il y a toute une série de prières qu'on peut faire, des prières personnelles. Une maman peut prier pour la naissance de son enfant. Et le patron des femmes enceintes, c'est Saint Gérard Majella. Donc on peut prier justement pour cela. Alors ce qu'il faut comprendre, donc je reviens à ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire ce trouble de l'eau, cette eau qui est agitée, représente le trouble, le bon trouble qui doit être élicité dans l'âme par une grâce actuelle de Dieu, pour amener l'âme au regret de ses fautes. N'oubliez pas qu'on ne peut pas regretter ses péchés de façon surnaturelle sans une grâce particulière du bon Dieu. Après un péché mortel, personne ne peut solliciter une contrition surnaturelle sans une grâce particulière de Dieu. Si on est en état de péché mortel, il est évident qu'on ne peut pas obtenir de Dieu à ce moment-là la grâce sanctifiante directement, dans cet état-là, puisque la grâce sanctifiante est incompatible avec le péché mortel. Par contre, même en état de péché mortel, on peut obtenir, et on doit, et on peut rien faire sans cela, il faut obtenir du bon Dieu une grâce actuelle qui amène l'âme à monter d'une contrition, d'une absence de contrition à un début de contrition imparfaite, puis ensuite à une contrition parfaite. Alors, Dieu amène donc ainsi l'homme à la repentance et à la contrition pour finalement être guéri, c'est-à-dire la guérison, c'est le pardon du péché par l'absolution sacerdotale. Alors, d'autres pères voient également dans cette piscine de Bethsemane non seulement un signe du baptême, mais aussi un signe de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ici au sens allégorique, du coup, sens allégorique, je vous rappelle, c'est l'Ancien Testament. Un passage de l'Ancien Testament qui représente quelque chose qui va arriver dans le Nouveau Testament. Donc Dieu, disent les pères, veut que cette piscine soit un signe à la fois de sa passion et de son baptême. Et il y a trois exemples ici qui sont donnés par les pères. De même que l'ange descendit dans l'eau pour agiter l'eau, au verset 4 du chapitre 5 de Saint Jean. De même que l'ange descendit dans l'eau, ainsi le Christ descendit par sa passion et ses tourments et fut immergé et enterré comme dans l'eau. Donc par sa passion, purifier nos âmes pour que l'âme puisse se présenter dignement devant Dieu. Donc il y a une image, c'est une très belle image, de même que l'ange descend dans l'eau pour agiter l'eau et rendre l'eau féconde pour qu'elle puisse guérir le premier qui va sauter dans l'eau après que l'ange ait agité cette eau. De la même façon, par sa passion, notre Seigneur Jésus-Christ, par les tourments de sa passion, notre Seigneur Jésus-Christ va, en quelque sorte, permettre à ceux qui utilisent ce sang de la passion, ceux qui utilisent le sang de cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ vont pouvoir être guéris de leurs péchés. Donc le sang dans lequel on se jette représente est ici représenté par l'eau qui est agitée par l'ange. Donc, d'un côté, il y a l'ange qui agite l'eau, d'autre côté, il y a le Christ qui, par sa passion, permet aux âmes de venir être baptisées dans le sang de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième exemple, l'eau de la piscine était rougie du sang des victimes qu'on y lavait, parce que c'était des piscines de purification. Donc, à cet endroit-là, on venait, les prêtres de l'Ancien Testament venaient purifier, venaient laver les victimes qui allaient être offertes au sacrifice. On venait laver les corps des animaux morts, surtout des brebis, des boucs, même peut-être des bœufs, je ne sais pas, qui étaient lavés dans cette eau avant d'être présentés à l'autel du sacrifice dans le temple de Jérusalem. Donc, l'eau de la piscine était rougie donc du sang de ces victimes. Qu'on y lavait. Ainsi, le Christ fut rougi et taché par son propre sang, afin que les mérites de son sang, par les mérites de son sang, il puisse donner le baptême dont les eaux lavent les fidèles pour guérir toutes les infirmités spirituelles. De même que les purifications de l'Ancien Testament préparaient les victimes pour être offertes à notre Seigneur Jésus-Christ, de la même façon, cette purification de l'Ancien Testament annonçait le sacrement de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, sacrement de la Sainte Eucharistie, donc, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par l'effusion de son sang, allait purifier les victimes que nous sommes, nous, les victimes du péché, nos âmes vont être purifiées par le sang de l'agneau immolé sur la croix, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de la même façon que les purifications rituelles de l'Ancien Testament annonçaient la purification des âmes qui allait arriver avec le Messie. N'oubliez pas que pendant l'Ancien Testament, le Messie n'était pas encore venu. Le Messie ne va venir qu'à la fin de l'Ancien Testament, au moment de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, vrai Dieu et vrai homme. Et donc, on ne pouvait pas se sauver de la même façon dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, on se sauvait par la foi au Messie à venir, qui n'était pas encore venu. Et donc, toutes les purifications de l'Ancien Testament, c'était extrêmement nombreux, toutes ces purifications rituelles, représentaient, préparaient les âmes à un jour accepter l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième exemple, en guérissant toutes sortes de maladies, l'image du baptême est fortement représentée, car si une image est proche de la vérité, elle devient plus illustre que les anciennes images. Donc, notre Seigneur va parler en parabole, il va aussi utiliser des choses toutes simples pour montrer allégoriquement, qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière. Donc, les purifications rituelles de l'Ancien Testament annonçaient la purification par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que, par exemple, le sang de l'agneau qui était utilisé pour peindre les pourtours des portes chez les Hébreux en Égypte, représentait bien sûr le sacrement de baptême. La traversée de la mer Rouge représentera aussi le baptême et l'arrivée de la Sainte Messe. Tout ça est allégoriquement représenté dans l'Ancien Testament. Et on va trouver dans le Nouveau Testament, justement, la mise, si vous voulez, en pratique de ces choses de l'Ancien Testament. Donc, c'est l'idée générale des pères de l'Église qui est très belle, c'est que ce miracle de ce paralytique qui était malade depuis 38 ans, qui était malade d'un coucher depuis 38 ans, donc il ne pouvait pas se lever par lui-même, qui va être guéri par notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il ne peut pas le faire par lui-même, il n'a pas la force de se jeter lui-même dans l'eau, et donc il va être guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous être guéri, dit notre Seigneur au verset 6 du chapitre 5 de Saint Jean. Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau a été agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus va faire le miracle. Levez-vous, prenez votre grabat et marchez immédiatement. Cet homme fut guéri. Bon. Eh bien, ceci représente donc le sacrement de baptême et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a un lien très net entre le baptême et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup ces explications des pères. Autre explication anthropologique, cette fois-ci morale. Cet homme infirme, donc qui est guéri par notre Seigneur, représente celui qui a grandi dans le péché. C'est pour ça qu'il ne peut pas bouger, parce qu'il est paralysé. Il est paralysé par deux choses, par l'erreur et par le péché. Donc par l'erreur, c'est corrigé par l'étude surtout, et par le péché, c'est corrigé par les sacrements. À l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, au début de sa vie publique, il n'y avait pas encore les sacrements. Donc, cet homme infirme qui ne peut rien faire par lui-même représente bien celui qui a grandi dans le péché, qui gît donc sans force dans les habitudes du vice, qui ne peut rien faire de bien, il ne peut rien faire par lui-même. Et une belle comparaison des pères, comme la paralysie détruit les liens qui unissent les membres, ainsi l'habitude du péché dissout la force de l'âme, qui ne peut plus se lever pour la fuir et lui résister sans la force de la puissante grâce de Dieu. Donc, l'habitude du péché va empêcher, va fermer la porte de notre âme à la grâce sanctifiante. Encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ ne rentre pas dans une âme comme un voleur. Il veut qu'on lui ouvre la porte. Est-ce que je suis capable d'ouvrir la porte de mon âme à notre Seigneur Jésus-Christ par mes propres forces? La réponse est non. Vous voyez, vous me dire, mais c'est un cercle vicieux. Non, c'est pas un cercle vicieux. Ceci nous aide à comprendre qu'on ne peut rien faire sans notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit dans son évangile, sans moi vous aurez du mal. Il dit, sans moi vous pouvez rien faire. Et est-ce que je peux regretter mon péché mortel après l'avoir commis, sans la grâce de Dieu? Non. Est-ce que je peux, sans la grâce du bon Dieu, après avoir commis un péché mortel, regretter mon péché mortel et me présenter au tribunal de la pénitence pour obtenir l'absolution du prêtre, sans la grâce du bon Dieu? Est-ce que je peux faire ça? Non. Est-ce que je peux me confesser tout en ayant en même temps un acte de contrition imparfaite au confessionnal par mes propres forces? La réponse est non. Il faut la grâce du bon Dieu. Donc l'habitude du péché dissout la force de l'âme, qu'il ne peut plus se lever pour la fuir et lui résister, sans la force de la puissante grâce de Dieu. Alors là, on touche encore une fois peut-être le plus grand mystère de la foi, à savoir l'alliance entre la toute-puissance de Dieu et en même temps le libre arbitre de l'homme. Donc notre Seigneur Jésus-Christ demande l'acquiescement de la personne, du pécheur. Voulez-vous être guéri? Et c'est évident qu'il faut commencer par vouloir être guéri. Et si je ne veux pas changer, le bon Dieu ne va pas me changer contre ma volonté. Mais c'est très important à comprendre, parce que les modernes racontent n'importe quoi sur ce sujet. Ils disent, mais il faut toujours pardonner aux pécheurs. Non, il ne faut pas toujours pardonner aux pécheurs. Il faut toujours pardonner aux pécheurs repentants. Mais il ne faut pas pardonner aux pécheurs qui ne regrettent pas ses péchés. Ah, mais il faut voir la bonne volonté d'une personne qui va se confesser. Donc toute personne qui se confesse doit un droit strict à recevoir l'absolution. Absolument pas. Vous allez vous confesser, vous n'avez pas un droit à l'absolution. C'est un droit relatif dans le sens que Dieu vous donne la grâce de la contrition. pour pouvoir vous confesser. Mais si vous n'avez pas reçu cette grâce de la contrition, vous ne pouvez pas recevoir la grâce de la confession validement. C'est absolument impossible. Et c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. On a un mal fou. Parfois, les modernes, quand on a certaines discussions houleuses avec des prêtres modernes qui disaient, mais il faut systématiquement donner l'absolution à toutes les personnes qui se présentent au confessionnal. Que nenni ! Bien sûr que non, on n'a pas le droit de faire ça. Imaginez une personne, c'est un exemple que je donne. Les modernes m'ont dit, il faut toujours donner, vous n'avez pas le droit en tant que prêtre, vous n'êtes pas maître de vos absolutions. Et comment donc je suis maître de mes absolutions ? C'est moi qui suis responsable, et si je donne l'absolution que je n'ai pas le droit de la donner, c'est moi qui ai quand même une faute grave. Imaginez quelqu'un qui se confesse et qui me dise, voilà, monsieur l'abbé, je vis en concubinage. Bon, c'est des personnes. Depuis combien de temps vous vivez en concubinage ? Ah ben, ça fait 2 ans que ça dure, et ça va encore durer pendant 2-3 ans, parce que je compte pas me marier en 2-3 ans. Et vous comptez rester en concubinage pendant ces 2-3 ans, monsieur ? Ah oui, parce que, comprenez, on a des enfants, on a déjà un enfant, et puis moi, je peux pas me marier tout de suite, parce qu'on attend les finances qui nécessaires pour cela. J'attends d'être certain de mon boulot, la femme avec laquelle je vis aussi, donc on reste encore 3 ans en concubinage, et dans 3 ans, on se mariera. Mais je veux l'absolution maintenant. Monsieur, vous pouvez pas recevoir l'absolution maintenant, sauf si vous me promettez sur l'honneur de quitter cette personne avec laquelle vous vivez, qui n'est pas votre épouse légitime. Les concubinaires ne posséderont pas le royaume des cieux, c'est pas moi qui dis, c'est symbole, c'est le Saint-Esprit. Ah, mais j'ai l'intention de me marier. Oui, mais en attendant, vous n'êtes pas marié. Donc si vous avez l'intention de vous marier que dans 3 ans, vous attendez encore 3 ans avant de pouvoir vivre avec cette femme, puisqu'elle n'est pas votre épouse. Ah, mais j'ai un enfant. Monsieur, je suis désolé, mais dans certains cas, avec beaucoup de prudence et beaucoup de garanties, si ces personnes nous promettent sur l'honneur de vraiment vivre comme frères et sœurs, à ce moment-là, on pourrait donner l'absolution, mais il faut être certain que les garanties soient sérieuses. Moi, je le fais jamais pour les jeunes personnes, et jamais pour les longues périodes de temps. Pour une période courte, oui. Ça m'arrive, par exemple, quand j'ai des personnes qui vivent dans le concubinage et qui viennent de demander le mariage, bon, dans un cas un peu particulier, bon, d'écouter, vous savez, il faut absolument qu'on se marie dans, je sais pas, dans une semaine ou dans un mois, bon, on n'aime pas trop s'occuper de mariage comme ça, là va vite, mais bon, dans certains cas, et le prêtre doit accepter le mariage pour différentes raisons, a dit, écoutez, puisque vous devez vous marier dans un mois, je veux qu'au moins pendant ce mois-là, vous me promettiez sur l'honneur que vous n'aurez pas de relation physique tous les deux, parce que vous n'êtes pas encore mariés. Donc, et que même si vous restez sous le même toit parce qu'il y a des enfants pour toute une série d'autres raisons, il faut me promettre et promettre au bon Dieu que vous allez être dans deux chambres différentes pour vraiment garder la vertu chasteté jusqu'au mariage. Et si les personnes refusent, je refuse le mariage. Vous voyez ? Et donc c'est complètement faux, c'est une fausse idée de la charité qui est très fréquente dans l'église moderne, qui mélange tout. L'église moderne mélange la charité naturelle, la charité surnaturelle. La charité surnaturelle est une vertu. La charité naturelle comme son nom l'indique, est naturelle. Vous pouvez rajouter toutes les vertus naturelles que vous voulez, nourrir tous les pauvres de la paroisse. Si vous n'avez pas la vertu surnaturelle de charité, ça vous sert de rien. Rappelez-vous Saint Paul. Saint Paul le dit expressément. Et même si je donne ma vie pour donne tous mes biens, donne ma vie à brûler pour les pauvres, et que je donne tous mes biens pour les pauvres, ça me sert à rien si j'ai pas la charité. Donc il faut la charité. Et donc l'Église n'a jamais demandé de pardonner au pécheur qui n'est pas repentant, parce qu'un pécheur qui n'est pas repentant ne peut prétendre recevoir l'absolution. C'est absolument impossible. Oui, donc il faut les modernes ne comprennent pas ces choses-là. Et quand on explique ces choses-là à des gens modernes, qui ont des idées modernes, ils poussent des cris putois en disant « Vous êtes un épouvantable individu, et vous n'avez pas le droit de refuser l'absolution. » Bon, je dis pas qu'on refuse l'absolution tous les jours, ça arrive relativement rarement, mais ça peut arriver. En général, c'est pas des refus d'absolution d'ailleurs. J'aime pas trop utiliser ce terme-là, je préfère dire que c'est un délai dans l'absolution. Monsieur ou madame, je ne peux pas encore vous donner l'absolution parce que vous ne regrettez pas vraiment de façon pratique vos péchés, vous n'avez pas une véritable douleur de vos péchés, vous gardez une occasion prochaine volontaire de péché mortel. Et tant que vous gardez une occasion prochaine volontaire de péché mortel, je n'ai pas le droit de vous donner l'absolution, sinon c'est moi qui commets un péché mortel. Vous voulez vous donner, très bien. Malheureusement, si c'est votre volonté, je ne peux pas faire grand-chose contre ça, mais vous donnez tout seul, comptez pas sur moi pour vous accompagner. Donc il faut que les choses soient claires. L'exemple que je donne, les gens comprennent avec un exemple. Quand les gens me disent, il faut systématiquement pardonner. Je dis, dites donc, si vous découvrez que votre gamin de 5 ans vient vous piquer une pièce d'un euro tous les matins dans votre portefeuille, vous le prenez sur le vif, qu'est-ce que vous faites? Vous le félicitez pour son action? Non! Vous le grondez en lui disant, c'est du vol. Et Dieu a dit, tu ne voleras pas. Donc il faut arrêter de voler. Oui, j'arrête de voler. Est-ce qu'il faut pardonner? On pardonne une fois que l'enfant a arrêté de voler. Imaginez que votre gamin continue tous les matins de vous piquer, de vous voler une pièce d'un euro dans le portefeuille de papa ou de maman. Est-ce qu'il faut pardonner? Bien sûr que non. Vous pardonnez quand l'acte pécamineux a disparu. Vous vous rendez compte que l'enfant, effectivement, a arrêté de voler, il fait de gros efforts, il est allé se confesser pour arrêter, trouver les grâces nécessaires pour arrêter de voler, il arrête véritablement de voler, est-ce qu'il faut pardonner? Oui. On ne pardonne pas avant qu'il y ait un changement de vie. Vous voyez, on n'a absolument jamais le droit de donner l'absolution à quelqu'un qui garde dans sa vie une occasion prochaine volontaire de péché grave. Dans ce cas-là, c'est le prêtre qui commet une faute grave. S'il le sait, s'il sait avant de donner l'absolution que son pénitent garde une occasion prochaine volontaire de péché grave, il n'a pas le droit de donner l'absolution. S'il la donne, le prêtre commet un péché mortel et l'absolution est invalide. Il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, nous voyons, page 58, que cette paralysie est humainement incurable. L'homme étant malade depuis, il y a une faute dans le texte, c'est marqué 48 ans, en fait, l'évangile parle de 38 ans, verset 5. Donc, l'homme étant malade depuis 38 ans sans pouvoir être guéri. Donc, le Christ prend sur lui de guérir ce paralytique plutôt que les autres malades qui étaient là pour manifester à la fois sa toute-puissance et sa miséricorde infinie. Donc, il va choisir quelqu'un, non pas qui était malade depuis quelques mois ou quelques jours, il va choisir quelqu'un qui était malade depuis 38 ans, donc qui était connu dans toute la ville pour sa maladie. C'était un paralytique. Donc, il devait mendier pour vivre, pouvoir manger. Et donc, toute la ville savait que cet homme était paralytique, ne pouvait rien faire par lui-même, et en plus était dans ce triste état depuis 38 ans. Et donc, le miracle n'en est que plus manifeste. Vous voyez, pour que personne ne puisse dire que ce n'était pas vraiment un malade et qu'il avait simulé une maladie qui n'existait pas en fait. Non. Le Christ prend donc sur lui de guérir ce paralytique pour manifester sa toute-puissance, sa miséricorde infinie. Dieu manifeste évidemment plus facilement sa miséricorde en guérissant quelqu'un qui est plus gravement malade et qui est malade depuis plus de temps. Après ces miracles, le Christ doit donc rajouter quelque chose pour en faire comprendre la vérité et la grandeur. Donc, voilà quelques exemples donnés par les pères. Ainsi, par exemple, il demande au paralytique de prendre son lit sur ses épaules, chose qu'il n'aurait pu faire s'il n'avait été guéri. Et il prouve que par cette guérison, il avait retrouvé ses forces. Prenez votre grabat et marchez. Alors, ça scandalise les pharisiens, les scribes, les publicains, les pharisiens, pardon, et les prêtres de l'Ancien Testament. Ils disent, mais ces jours de sabbat, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bon. Et donc, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, avait donné cet ordre, prenez votre grabat et marchez, verset 8, chapitre 5 de Saint Jean, levez-vous, prenez votre grabat et marchez, quittez votre vie de péché, prenez votre grabat et marchez, pour bien montrer que non seulement il était guéri, mais qu'il était tellement guéri qu'il pouvait même porter son lit de douleur sur lequel il gisait depuis 38 ans, porter son grabat pour rentrer chez lui. Donc il prouve publiquement cette guérison, tout en scandalisant tous les hypocrites qui refusaient la guérison le jour du sabbat. Après la multiplication des pains, autre exemple donné par les pères, le Christ ordonne que les morceaux qui restaient soient rassemblés et tous purent voir qu'il n'y en avait plus qu'au début. Vous voyez, encore une fois, il manifeste publiquement. Il aurait pu nourrir 10 personnes avec un bout de pain. Eh bien, il va pas nourrir 10 personnes avec un bout de pain, il va nourrir des milliers de personnes avec quelques poissons, quelques bouts de pain, pour manifester plus directement la grandeur de sa miséricorde. Et plus le miracle est grand, plus le miracle impressionne, et plus le miracle manifeste la miséricorde infinie de Dieu pour nous, pour le pécheur pénitent. D'ailleurs, n'oubliez pas que derrière tous ces miracles, il y a toujours une allégorie qui est là, qui représente le miracle, indique la nécessité de se convertir. La guérison des corps qui est visible indique la guérison de l'âme qui, elle, est invisible. Il faut bien comprendre qu'en soi, la guérison d'une âme est quelque chose de plus grand, un miracle plus grand que la guérison du corps. Le problème, c'est que la guérison du corps se voit et pas la guérison de l'âme. Alors, attention à ces choses-là. Et donc, il va obliger, si vous voulez, et après les miracles, souvent obliger les gens à aller se manifester publiquement. Autre exemple donné par les pères, à propos du lépreux qui venait de guérir, notre Seigneur Jésus-Christ va dire au lépreux, allez vous montrer au prêtre. Dire, allez à l'autorité pour que l'autorité puisse constater ce miracle. Il ordonna également que quelque chose soit donné à manger à la jeune fille qui venait de ressusciter. Dans Marc 5, 43. Bon, il vient de ressusciter cette jeune fille pour bien montrer que la résurrection est réelle. Qu'est-ce qu'il dit? Allez et donnez-lui à manger. Vous voyez? Notre Seigneur Jésus-Christ s'est occupé du corps, mais pour bien montrer que derrière ce corps, il y a une âme qui vient de se sauver, qui doit être sauvée également. Donc, il guérit le corps et demande immédiatement que ce corps soit nourri, pour bien expliquer que l'âme qui est guérie doit être nourrie par la grâce sanctifiante. Alors, autre explication, ces explications sont magnifiques chez les pères, en bas de la page 58, tropologiquement, donc moralement, prenez votre grabat et marchez. Verset 8 du chapitre 5 de Saint Jean. Prenez votre grabat et marchez. Saint Grégoire applique ces mots aux pécheurs qui ont été justifiés par la pénitence et qui, par un juste jugement de Dieu, supportent les tentations à cause de leurs péchés passés. Ce malade, donc, qui a retrouvé la santé, doit maintenant porter ce lit sur lequel il a été lui-même porté. Car toute personne qui a été guérie doit maintenant porter les opprobres de la chair dans lesquels il gisait auparavant par sa maladie. Là encore, une magnifique explication des pères. La personne qui est guérie doit être guérie d'abord par la miséricorde du bon Dieu. Mais pour pouvoir être guéri, il faut d'abord regretter ses péchés, il faut la contrition, il faut aussi l'accusation du péché. Mais n'oublions pas qu'il y a une troisième chose qui est nécessaire, c'est la réparation. Eh bien, la réparation, elle est représentée justement ici par le fait que l'homme qui vient d'être guéri, donc qui a reçu l'absolution en quelque sorte de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, donc qui a accusé ses péchés, qui a regretter ses péchés, il doit maintenant manifester publiquement son désir de changer de vie, réparer. Pour bien montrer qu'il change de vie, Dieu va lui demander de porter son grabat, pour que tout le monde puisse voir cet homme qui était paralysé, qui gisait sur son lit de douleur depuis 38 ans, est maintenant capable de porter par lui-même son grabat, donc il va complètement changer de vie. Avant, il mendiait pour vivre, maintenant il va pouvoir travailler pour vivre, parce qu'il est capable de le faire. Cela représente justement ce changement qui doit être effectué dans l'âme. La contrition est une chose, elle est nécessaire, jointe à la douleur et au ferme propos de changer de vie, de sortir du péché. Il faut aussi joindre à cette contrition, il faut l'accusation des péchés, bien sûr, mais il faut aussi la réparation, pas oublier. Et cette réparation-là est bien manifestée par le fait qu'il porte son grabat. J'aime beaucoup l'explication des pères. Toute personne qui a été guérie, donc qui a été pardonnée de ses péchés, doit maintenant porter les opprobres de la chair dans lesquelles il gisait auparavant par sa maladie. Ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup péché, par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui avait un gros problème de boisson, il va s'accuser de ses péchés, il s'accuse d'avoir pendant, ici l'exemple, 38 ans, avoir bu plus que de raison, d'avoir donné du scandale partout. Bon, ou une personne qui s'accuse pendant un long période de temps d'avoir commis des péchés très graves contre la pureté, il regrette ses péchés, il accuse ses péchés, il reçoit l'absolution des péchés, les péchés sont effacés, mais maintenant il faut réparer. Et une des façons de réparer, c'est justement de porter, nous disent les pères, de porter dans notre chair les opprobres qui viennent de la maladie qu'on avait auparavant. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a bu pendant des années, qui est décidé à sortir du péché par lequel il buvait beaucoup trop, péché grave contre la tempérance, eh bien, il va devoir lutter contre les tentations. C'est pas parce qu'il s'est confessé, même correctement, pas parce qu'il a reçu l'absolution qu'il n'aura plus de tentation de boire. Donc on va lui dire, écoutez monsieur, je vous félicite d'avoir fait une bonne confession, mais attention, vous ne gardez plus de vin chez vous, plus question. Vous êtes un alcoolique, donc il faut plus qu'il y ait une seule goutte de vin, sinon vous allez retomber. Et ensuite, vous allez faire très attention à éviter les occasions prochaines de péché, c'est-à-dire éviter toutes les occasions qui vont vous pousser de nouveau vers la boisson. Donc, il n'est pas question que vous alliez jouer aux fléchettes dans un bar de la ville, comme vous le faisiez avant, parce que vous savez très bien que dans ce bar, vous allez rencontrer tous vos anciens compagnons de beuverie, et que vous allez être tenté de boire de nouveau. Donc, il va falloir non seulement ne pas garder de boissons alcooliques chez vous, mais en même temps, faire très attention à ne pas à éviter les gens, les lieux, les personnes, les endroits qui vous poussaient au péché par lequel vous buviez trop auparavant. Et c'est là où on va voir les opprobres de la chair. De même, quelqu'un qui se confesse après des graves péchés contre la pureté, qui ont duré peut-être pendant des années et des années, bon, il ne faut pas croire que parce qu'il a reçu l'absolution, ben, validement, il n'aura plus de tentation contre la pureté. Monsieur, je me suis confessé, j'ai encore plein de tentations. Ben évidemment, il faut payer maintenant. Il faut payer les conséquences de ces péchés, ce qu'on appelle la réparation. La première réparation, ben, c'est évidemment, ben, il y a une facture à payer. Il y a une facture à payer, vous vous êtes coupé gravement, vous êtes cassé un os, bon, le chirurgien a remis les os en place, a mis un plat pour que ça se recolle, ça s'est recollé, mais il reste une blessure, une faiblesse de ce membre, cette jambe par exemple. Eh bien, il n'est pas question d'aller jouer au football, au rugby, avec une jambe qui vient d'être guérie. Vous avez une faiblesse, il va falloir en tenir compte. Vous voyez? Et c'est, j'aime beaucoup ces explications des pères. Je répète cette phrase, ce malade qui a retrouvé la santé doit maintenant porter celui sur lequel il a lui-même été porté. Dieu a manifesté sa miséricorde, maintenant il faut changer de vie. Et si vous n'avez pas décidé à changer de vie, à ce moment-là, c'est que votre absolution était invalide. Vous voyez? Dans le sens que il faut avoir un désir de changer de vie pour pouvoir recevoir validement l'absolution. Ici, un exemple qui est donné par les pères, Sainte Marie d'Égypte. Pendant 17 ans, après sa conversion, elle souffrit de terribles tentations de la chair parce qu'elle avait vécu pendant la même période de temps dans l'immodestie. C'était une prostituée d'Égypte qui a été convertie par un des pères du désert. Je me demande si c'est pas Saint Antoine ou Saint Pacôme, je ne me rappelle plus lequel des deux, qui a converti Sainte Marie d'Égypte. Saint Paul Hermite ou Saint Antoine Hermite, un des deux, je ne me rappelle plus très bien, ou Saint Pacôme. Donc, elle avait vécu dans la prostitution plus ou moins pendant 17 ans. Elle se convertit. Eh bien, le bon Dieu a permis qu'elle ait des terribles tentations contre la chair pendant la même période de temps, c'est-à-dire pendant 17 ans, parce qu'il fallait réparer. Et il vaut mieux réparer ici-bas que de réparer après. Hein. De toute façon, il faudra réparer. Si on n'a pas pu réparer ici-bas, même si on a fait une bonne confession, et il va falloir réparer au purgatoire. Il vaut mieux réparer ici, c'est bien meilleur marché que de réparer ici-bas que de réparer au purgatoire. Les péchés sont donc nos propres exécuteurs qui se vengent justement. Ce qui plaisait auparavant, maintenant, tourmente. Ce qui vous avait fait volontairement, vous le supportez maintenant involontairement. Vous voyez donc, je dis toujours ça aussi aux adultes que je baptise. En disant, attention, vous demandez le baptême, très bien, je vais vous baptiser, je suis content de le faire, mais ne croyez pas que le baptême va supprimer toutes les tentations. Le baptême va vous donner des forces nouvelles pour lutter contre les tentations, mais vous aurez des tentations après le baptême. Et peut-être même dans certains cas, vous en aurez plus qu'avant. Vous pouvez avoir, par exemple, des tentations contre la foi très fortes après le baptême que vous n'aviez pas avant le baptême. Et parfois, le bon Dieu permet parfois que des jeunes baptisés, des jeunes adultes qui ont été baptisés, aient après le baptême des tentations terribles. Tentations terribles. Qu'il faut comprendre. Il ne faut pas croire encore une fois que l'absolution va supprimer toutes les tentations. Bon, il y a une dette à payer. Il vaut mieux la payer ici-bas que la payer au purgatoire encore une fois. Donc, ce qui plaisait auparavant, maintenant tourmente. Vous avez indulgé, c'est peut-être pas français ça, vous avez accepté des choses auxquelles vous n'avez plus droit, vous n'aviez pas droit, et maintenant il va falloir volontairement faire des sacrifices pour rattraper cette indulgence coupable que vous avez acceptée dans votre vie spirituelle, dans votre vie physique. Il va falloir rattraper tout ça. Et donc, une des façons de rattraper, c'est bien sûr de changer de vie, mais c'est aussi de porter le poids des tentations provoquées par les péchés du passé, qui ne sont plus là. Les péchés ont disparu, mais les tentations sont toujours là. Hein? Et parfois, il y a des choses très, très, très lourdes à faire. Vous avez volé une grosse somme d'argent, il faut rendre l'argent, mais si je rends l'argent, je vais être dans la misère. Eh bien, monsieur, il vaut mieux être dans la misère, être en état de grâce, que d'être dans la richesse et être en état de péché mortel. Vous voyez? Autre explication donnée par saint Augustin en bas de la page 58. Saint Augustin dit, levez-vous, donc ça c'est le verset 8, levez-vous, prenez votre grabat et marchez, levez-vous, c'est-à-dire aimez Dieu qui est au-dessus de vous. Donc il faut se lever pour monter vers le bon Dieu. C'est l'image de l'homme qui est couché sur son grabat, qui regarde vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de lui, pour lui demander, Seigneur, je veux être guéri, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau était agitée. Notre Seigneur lui demande, voulez-vous être guéri? Et l'homme répond, oui, je veux être guéri. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui voit cette bonne volonté, levez-vous, prenez votre grabat et marchez. Prenez votre lit, c'est-à-dire aimer. Alors, levez-vous, ça veut dire aimer Dieu qui est au-dessus de vous. Prenez votre grabat, c'est-à-dire prenez votre lit, c'est-à-dire aimer votre prochain, portant ses infirmités selon ses mots. Portez-vous mutuellement vos fardeaux afin de remplir la loi du Christ. Lorsque vous étiez faible, le prochain vous a porté. Maintenant, vous êtes guéri, portez votre prochain. Portez celui avec lequel vous marchez pour que vous puissiez venir à lui avec qui vous voulez demeurer. Et une belle image, là, encore une fois, des pères. Donc, c'est cet homme qui se convertit et qui manifeste, cet homme qui est guéri, qui manifeste publiquement sa guérison en marchant, en portant son grabat devant tout le monde, eh bien, représente la personne qui change de vie et qui doit manifester publiquement qu'il a changé de vie. Vous voyez? C'est le cas même dans les paroisses. Imaginez quelqu'un qui a donné beaucoup de scandales dans une paroisse par son comportement. Il change de vie après une bonne retraite, par exemple, une bonne confession générale. Il décide de changer de vie. Il doit clairement manifester aux yeux de la paroisse qu'il a changé de vie. Hein? Imaginez quelqu'un qui, je sais pas moi, donnait beaucoup de scandales dans sa paroisse parce que il buvait plus que de raison et était régulièrement ivre dans la paroisse. Tout le monde le savait. Dans la rue, tout le monde le savait, eh bien, il se convertit, il change de vie, mais il faut qu'il arrête de boire, bien sûr. Et il faut que les gens de la paroisse puissent voir qu'il a arrêté de boire. Quelqu'un qui vivait publiquement en concubinage, bon, avant de pouvoir recommunier de nouveau, une fois qu'il a changé de vie, il faut qu'il marque publiquement son regret de ses péchés en quittant sa concubine. Il faut que les gens disent, ah, ça va, il a quitté la concubine avec laquelle il vivait, ou la femme avec laquelle il vivait, qui n'était pas son épouse, il vivait dans le concubinage, il vivait dans l'adultère, c'est fini, c'est terminé, maintenant on l'accepte. Et bien sûr, il faut l'accepter dans la paroisse, parce qu'il faut accepter le pécheur repentant. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Le père qui attendait le retour de son enfant, il voit l'enfant qui revient et qui lui dit « Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché contre le ciel et contre vous. » Est-ce que le père va faire des tas de remarques? Non, il relève l'enfant et il le serre contre lui. Et non seulement le serre contre lui, mais il lui pardonne tout et organise tout de suite une grande fête. Il lui rend la note famille, il lui rend la robe nuptiale pour manifester justement qu'il le reprend dans le même contexte dans lequel il vivait auparavant, il est de nouveau reconnu comme fils de famille. C'est l'ouvrier de la dernière heure, l'ouvrier de la dernière heure, il reçoit la récompense d'un denier comme l'ouvrier qui a porté tout le jour le poids à la chaleur. Avançons un peu. Versets 14 à 18 de Saint Jean, chapitre 5, en bas de la page, au haut de la page 59. Plus tard, Jésus le trouva dans le temple. Et lui dit, voici que vous avez été guéri. Ne péchez plus désormais, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Cet homme alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore davantage à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais parce qu'en outre, il disait que Dieu était son Père, se faisant égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit. Donc, après, on passe au verset 19. Vous voyez, là, c'est quand même ahurissant. Notre Seigneur Jésus-Christ vient de faire un miracle extraordinaire. Encore une fois, ce paralytique était paralysé depuis 38 ans aux yeux de toute la ville. Et qu'est-ce que font les prêtres, les pharisiens? Au lieu de tomber à genoux pour reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, sa divinité, eh bien, ils cherchent à le faire mourir. Ils cherchent à le faire mourir. On le voit très bien avec peut-être un des plus grands miracles dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ qui ressuscite Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe, qui était mort depuis 4 jours et enfermé dans le tombeau depuis 4 jours. Donc il pourrissait déjà à cause de la chaleur, était déjà en putréfaction après la mort. Il donne l'ordre, Lazare sort dehors et Lazare sort. Un miracle extraordinaire, beaucoup se convertissent, mais les pharisiens qui ont assisté à ce miracle, au lieu de se convertir, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent, ils vont voir les autres pharisiens en disant « il faut qu'on fasse quelque chose parce que tout le monde va à lui ». Ils vont commencer à préparer la trahison de Judas et obtenir la trahison de Judas. Vous voyez, c'est pour ça que souvent les gens nous disent « pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas un grand miracle aujourd'hui, tout le monde se convertirait ?» Bien, regardez le miracle occasionné par Saint Lazare. Le Seigneur ressuscite Saint Lazare devant des centaines de personnes, c'est pas rien ça. Est-ce que tout le monde se convertit? Il y en a qui se convertissent, oui, mais il y en a qui ne se convertissent pas. Il y a des gens durs qui ont un cœur dur et qui ne se convertiront jamais, malheureusement. Vous voyez, donc il faut voir, bien comprendre toutes ces choses-là. Alors, essayons de voir un peu dans ces explications des pères de l'Église. Donc on voit ici l'hypocrisie donc de ces pharisiens. Vous voyez, donc notre Seigneur vient de faire ce miracle extraordinaire. Et au verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. Donc cet homme-là, celui qui vient d'être miraculé, il annonce aux Juifs, c'est Jésus qui m'a guéri. Et vous croyez que les pharisiens, les Juifs qui poursuivaient Jésus vont arrêter de le poursuivre? Non, ils continuent de le poursuivre parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Ils auraient pu se dire, mais d'accord, en principe, on n'a pas le droit de porter un grabat le jour du sabbat, mais quelqu'un qui est capable de guérir, de rendre le pouvoir de bouger un paralytique de 38 ans, qui a été malade pendant 38 ans, il peut être que Dieu. Il ne peut agir qu'avec le pouvoir de Dieu. Vous voyez? Mais non. Ils s'accrochent aux petites choses et ils avalent ils filtrent le moucheron, ils avalent le chameau. Voilà. Comme nous sommes, disent les pères, la plupart du temps insensibles aux maladies de notre âme, tandis qu'à la moindre blessure que reçoit notre corps, nous prenons tous les moyens pour en être aussitôt guéris. Dieu frappe alors le corps en punition des péchés de l'âme. Si les gens modernes prenaient autant de soin de leur âme qu'ils en prennent de leur corps, ils seraient tous des saints depuis longtemps. Regardez ce que sont capables de faire certaines personnes pour des broutilles. Pour enlever une petite disgrâce sur un visage, sur le bout du nez, ils sont capables de dépenser des milliers d'euros pour avoir des chirurgies esthétiques extraordinaires pour s'enlever quelques difformités. Ils ont des difformités énormes sur leurs âmes, ils bougent pas. Vous voyez? Regardez ce que sont capables de, moi j'étais sidéré parfois de voir ce que certaines personnes sont capables de faire pour des dépenses somptuaires qu'ils sont capables de faire pour leur chien ou leur chat. Puis je leur demandais, mais la moitié, le dixième, le centième de ces efforts pour s'occuper un peu de leurs âmes et d'aider leurs âmes à sortir du péché, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps de dépenser des milliers d'euros pour s'occuper de leur chat, s'occuper de leurs vêtements, s'occuper de leur nouvel ordinateur, leur nouveau téléphone portable. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur âme. Vous voyez? Donc, Dieu frappe alors le corps en punition des péchés de l'âme. Dans bien des cas, je l'ai vu, de mes yeux vus, les maladies sont des moyens extraordinaires pour ramener les hommes à la réalité. Ces maladies renferment un second et un troisième avertissement, c'est la vérité des peines de l'enfer et la durée infinie de ces mêmes peines. Beaucoup de gens sont convertis par la maladie. S'il n'y avait pas eu cette maladie, eh bien, ils n'auraient pas été convertis. Donc, remercions le bon Dieu. Parfois, quand on a des maladies, je vous assure que c'est pas facile. Moi, je le vois en ce moment. Pourtant, j'ai pas grand chose, hein. Bon, j'ai quoi? Je me suis cassé le tendon quadricipital qui joint le quadriceps à la rotule. Bon, ça me gêne énormément. Je peux plus faire mes génuflexions. J'ai du mal à conduire. Je boite beaucoup en marchant. Bon, j'ai l'air d'un crampin, un vieillard de 90 ans. Bon, ben, j'avais prévu de faire des tas de choses que je peux pas faire parce que je peux pas marcher correctement. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est aussi un moyen de sanctification extraordinaire. Alors, bon, on peut râler tout le temps, ça sert à rien. Ça sert à rien de râler. Par contre, c'est bien plus utile de savoir justement rendre grâce au bon Dieu pour cette maladie. Moi, j'essaie de le faire, c'est pas facile. Remercier le bon Dieu, merci mon Dieu de m'avoir cassé le tendon quadricipital. Bon, j'aurais aimé qu'il se casse pas, cependant vous avez voulu qu'il se casse. Vous avez une raison derrière ça. C'est peut-être que j'ai pas très bien compris la raison, mais vous savez ce que vous faites. Donc merci de m'avoir cassé le permis que mon tendon quadricipital se casse. Le coup de hache, il paraît que ça s'appelle. C'est cassé net. Eh bien, bon, j'ai prévu de faire des tas de choses, ben, je peux pas les faire. Ben, je vous offre ce problème que j'ai parce que je peux pas faire ce que je veux faire. Que votre volonté soit faite, même si je la comprends pas. C'est facile de comprendre la volonté, de faire la volonté du bon Dieu quand on la comprend, quand on l'aime bien. Mais il faut aussi accepter la volonté du bon Dieu quand on la comprend pas. Voilà. C'est mal à dire en forme donc, souvent un avertissement. Il y en a qui osent dire, est-ce qu'un adultère d'un instant sera puni par un supplice éternel? Mais est-ce que le paralytique avait péché autant d'années qu'avait duré sa maladie? Concluons de là que la gravité du péché ne doit pas se calculer sur le temps que l'homme a mis à le commettre, mais la nature même de ses péchés. Regardez les péchés originels. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça a pris quelques secondes à Ève pour détacher la pomme de l'arbre de connaissance du fruit de la connaissance du bien et du mal, en manger la moitié et donner l'autre moitié à Adam. Regardez les conséquences. Et pour Ève, et pour Adam, et pour toute l'humanité. À cause du péché d'Adam. Hein. Encore une fois, si Adam n'avait pas péché, le péché originel n'aurait pas été transmis. C'est Adam qui est responsable du péché originel, transmis à tous les hommes. Vous voyez? Donc attention, c'est pas parce que un péché ne dure qu'un instant que ça veut dire qu'il n'y a pas des graves conséquences du péché. Vous voyez, on le voit tout le temps aujourd'hui, les gens le disent tout le temps, ah, mais c'est un péché d'un instant, donc pourquoi être obligé de faire pénitence pendant tellement longtemps? Prenez le péché d'avortement, par exemple. Je sais pas combien de temps ça prend pour tuer un enfant couper en morceaux un enfant dans le sein de sa mère, par solution saline ou je sais pas trop comment. Bon, malheureusement, les hommes ont inventé des horreurs pour tuer les enfants dans le sein de leur mère. Bon, peut-être que pour tuer un bébé dans le sein de sa maman, il ne faut que quelques secondes. Bon, mais il y a une vie qui est morte, il y a une vie qui est partie. Hein. Attention, il y a meurtre. Non seulement il y a meurtre, mais l'âme de ce bébé ne verra jamais Dieu parce qu'il est mort sans baptême. Comment attraper des péchés pareils? Et pourtant, le bon Dieu pardonne. Moi, j'ai eu des cas, hein, ça peut arriver, parfois pendant les retraites, par exemple. C'est des cas qui peuvent arriver n'importe quand. Une personne qui a accusé, par exemple, c'est un exemple que je donne, des péchés d'avortement, parfois plusieurs. Est-ce que vous regrettez? Oui. Vous regrettez d'avoir tué cet enfant? Oui. Est-ce que vous réalisez que c'était des meurtres, des infanticides? Oui. Est-ce que vous réalisez que c'est l'âme de ces enfants, par votre faute, ne pourra jamais voir le bon Dieu? Oui, monsieur l'abbé, je regrette ces péchés. Alors je vous absous de tous vos péchés. Ego vos absolvo, te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Allez en paix, ne péchez plus, et maintenant il faut réparer. Et comment je peux réparer? L'enfant est au limbe. L'âme de cet enfant est au limbe, mais il faut réparer quand même, d'une autre façon. D'une autre façon. Et j'ai vu des réparations extraordinaires, des gens qui acceptaient de faire des pénitences extraordinaires pour réparer justement ces péchés du passé. Donc, ne pas se décourager après le péché, mais en même temps, voir la gravité du péché, c'est... quelque chose de très important qui se passe aux retraites, c'est qu'avec la grâce du bon Dieu, les retraites de Saint Ignace sont très efficaces pour aider l'âme à comprendre ce que c'est le péché. Que le péché, c'est pour ça qu'on ne fait pas la confession générale tout de suite. Entre le début de la retraite et les confessions, ça passe 2 jours, parfois 2 jours et demi. Et pendant 2 jours et demi, on aide ces personnes à comprendre la gravité du péché. Le bon Dieu, encore une fois, est plein de miséricorde, mais on ne peut pas préparer, valédiser, je ne sais pas comment, convertir une âme en moins de 2 jours, 2 jours et demi. Il avait raison. Donc on attend, puis une fois que les gens ont terminé la préparation de confession générale, on les a fait méditer pendant 2 jours et demi sur le salut de l'âme, le but de la vie, la gravité du péché, les conséquences du péché, au bout de 2 jours et demi, ils sont prêts pour faire une confession générale. Mais on ne la fait pas faire tout de suite, on attend, pour être sûr que les conversions sont profondes et vont durer. Voilà, nous allons arrêter là. Je pense qu'il faudra encore plusieurs conférences pour terminer ce chapitre 5, on fait ce qu'on peut, il y a beaucoup de choses à dire. Je corrige au fur et à mesure, il y a pas mal de fautes d'orthographe, de fautes de frappe, de coquilles sur mes polycopies, donc je corrige au fur et à mesure, et à la fin de du chapitre, à la fin du fichier, je change de polycopie sur le site d'Amari. Donc c'est pas changé, le polycopier sera changé quand j'aurai terminé le dernier verset, l'explication du dernier verset du chapitre 5. Voilà. Terminons par une fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Bédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.